Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous. Mondial Sport, seconde manche du week-end. Encore pas mal de football au menu jusqu'à 22h TU. Le choc au sommet de la Liga Real Madrid FC Séville. On est en plein dedans. Notre correspondant Pierre Chaperon n'en perd pas une miette. Il nous fera un point dans un instant. Chelsea encore à la peine à domicile face à un ténor de Première Ligue. Un partout avec Manchester United. Manchester City gagne de justesse. Liverpool régale hier à Anfield Road. Les principaux enseignements avec Bruno Constant. En Afrique, les matchs allés du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, un nouveau président pour l'Africa Sport, Narcisse Théakouyo, de retour aux affaires pour tenter de tourner la page des années noires d'un club toujours en crise. J-3 pour le mondial féminin de handball en Espagne avec l'équipe de France, championne olympique et donc dans le rôle toujours difficile de l'équipe guettée au tournant. Et 4 nations africaines, parmi elles la jeune mais prometteuse équipe de Tunisie, ses ambitions et sa préparation expliquées par le sélectionneur Moez Benhamor. Enfin, comment remédier à la crise de résultats qui plombe l'athlétisme français depuis un moment par un accompagnement personnalisé de sa génération attendue à maturité pour les Jeux Olympiques 2024, répond la fédération qui lance un plan d'action. Allez, top départ de notre traditionnel mini-périple de l'Europe du football. Comment se sont comportées vos équipes favorites aujourd'hui et même hier? On va vous le résumer et même vous en parler à chaud puisqu'on part d'abord en Espagne, rejoindre Pierre Chaperon pour la 15e journée de Liga. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Comme nous, vous êtes rivés sur le choc en cours à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le FC Séville. Le premier contre le troisième, il reste un petit peu moins de 20 minutes et pour l'instant égalité un partout.
Oui, drôle de début de rencontre côté Real à la radio espagnole. On s'est pas mal demandé d'ailleurs quel était le plan de Ancelotti, tellement l'équipe paraissait apathique, pas trop de course en avant, des joueurs sans volonté d'aller dans la profondeur, ouverture du score logique de Séville à la 11e sur corner, signé Rafa Mir complètement seul au point de pénalty, faute de marquage signé Militao, l'Espagnol qui aurait pu d'ailleurs doubler le score quelques minutes après quand il a récupéré un ballon mal relancé de la défense du Real, mais il a buté sur Courtois et à la barre. La réponse, elle n'est venue qu'à la 31e minute. Militao tire en dehors de la surface. Bounou, le gardien marocain, tente de la capter, mais il lui échappe sur le poteau. Benzema, qui traînait là, continue et marque. La seconde mi-temps, ça a l'air d'aller un peu mieux pour le Real, qui domine depuis le retour des vestiaires.
Benzema, buteur donc à la demi-heure de jeu, toujours en forme, Karim Benzema, malgré sa condamnation cette semaine dans l'affaire de la sextape.
Oui, 11e but en Liga pour le Français qui a fait appel du jugement dans l'affaire de la vidéo privée. Ça ne le perturbe pas trop puisqu'il a marqué cette semaine en Ligue des Champions. Et ce soir donc, toujours un élément sur le Français, une affaire privée sur laquelle le Real n'a pas communiqué. Même point de vue pour les supporters qui n'attendent qu'une chose et qu'il marque, c'est ce qu'il a fait ce soir. Et puisqu'on parle des Français, notons le match très sérieux de Ferland Mendy sur le côté gauche du Real en défense. Hein. Autre bleu, le défenseur central Jules Koundé, valeur sûre, toujours là, toujours bon à la relance. En revanche, match à oublier pour le moment pour le gardien de but marocain Yacine Bounou, je vous en parlais. Pas forcément grand chose à faire, mais le but, eh ben, il est pour lui, en tout cas, c'est ce que disait la presse espagnole, Christophe.
On parle un petit peu plus tôt dans la journée de l'Atlético de Madrid qui évoluait à Cadix à l'extérieur et l'Atlético qui s'est régalé. 4-1, il l'emporte largement.
Oui, mais succès difficile à se construire avec le même 11 que lors de la défaite en milieu de semaine que face à l'AC Milan. Les coachs généraux ont eu du mal dans la finition, même si en regardant bien, le match n'allait que dans un sens en première mi-temps. Et c'est pour Thomas Lemar a débloqué la situation et c'est pour moi l'homme du match d'ailleurs. Troisième but en Liga pour l'ancien Monégasque. Pour AS, le champion a retrouvé sa meilleure version, celle vue cette saison par exemple contre Barcelone. Lemar sur le coup dans le deuxième but puisque c'est lui qui lance Llorente qui centre pour Griezmann qui marque. Correa troisième buteur, Cunha quatrième. Entre temps, Cadiz a réduit la marque par Lozano. L'Atlético récupère le sourire, titrait le site de Marca après la rencontre. Première victoire à l'extérieur pour l'Atlético depuis 2 mois et demi grâce un peu à ses Français Cocorico. En attendant la fin du match Séville-Real, l'Atlético est deuxième.
Rembobine de 24 heures, Pierre, succès du Barça hier 3-1 sur la pelouse de Villarreal, mais victoire qu'on peut qualifier de victoire en trompe-l'œil.
Oui, parce qu'il y a toujours ces mêmes problèmes récurrents, ce manque de finition, ce gros problème de baisse de rythme pour les Barcelonais à partir de la 70e minute. Pourtant, tout avait bien débuté hein, pour les hommes de Xavi Hernandez, 20 bonnes premières minutes. Mais après, tout est retombé. Le Barça qui aurait pu être sanctionné d'un pénalty avec une main de Piqué dans la surface en première période. A noter la bonne prestation de l'Espagnol d'origine marocaine, Abde Ezzalzouli, à l'origine du premier but catalan. Côté Villarreal, Samuel Chukwueze, le Nigérian, a marqué l'unique but de son équipe. En Espagne, on considère que cette victoire est due à deux erreurs défensives de Villarreal. Alors forcément, on a demandé, après la rencontre, à Xavi s'il avait de la chance. Eh bien, je vous propose d'écouter sa réponse.
On va voir si on aura de la chance dans les prochains matchs. S'il y a une part de chance, eh bien, qu'elle soit la bienvenue. Tout ce qui peut aider l'équipe me paraît fantastique. Non, en vrai, ça n'est pas une histoire de chance. Nous avons travaillé ces phases de jeu. Le deuxième but, c'est quelque chose que nous avions travaillé. Mais nous étions opposés à un rival magnifique et ils ont fait un grand match, eux aussi. Mais nous avons aussi très bien débuté la rencontre. Alors je crois que nous avons eu 3 ou 4 occasions claires pour commencer. Donc bon, bah, là aussi, on peut parler de chance. Mais pour eux.
Le Barça est 7e au classement à 6 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions et Xavi est invaincu pour le moment.
Merci beaucoup Pierre Chaperon dans l'ambiance du stade de Santiago Bernabéu. Vous donnera évidemment le score final de Real FC Séville dans un peu plus d'un quart d'heure en principe. On enchaîne avec la Première Ligue, l'essentiel de la 13e journée, avec ce soir Bruno Constant qui fait une petite infidélité à Radio Foot International pour revenir nous voir dans Mondial Sport. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Christophe et bonsoir à tous nos auditeurs.
Chelsea, Manchester United, c'était l'affiche donc du week-end à Stamford Bridge. Un partout, score final. Confirmation, Bruno, que les Blues ont bien du mal cette saison à domicile avec les grosses équipes comme les Red Devils de l'éphémère Michael Carrick qui s'en sortent bien, les Red Devils, même avec un Ronaldo remplaçant.
Oui, effectivement, et c'était, vous faites bien de le dire, c'était l'affiche de cette 13e journée, puisque d'un côté, on avait un Chelsea qui roule sur la Première Ligue et qui venait de corriger la Juventus Turin en Ligue des Champions, et de l'autre, une formation de United malade, où Michael Carrick, l'ancien adjoint de Solskjaer, assure l'intérim, en attendant l'arrivée, on le sait désormais, du nouvel entraîneur de United, Ralf Rangnick, et Carrick qui était allé chercher la qualification à Villarreal en Ligue des Champions. Chelsea a dominé cet après-midi son adversaire à Stamford Bridge, 24 tirs à 3, 66% de possession. Mais c'est bien Chelsea qui a concédé l'ouverture du score sur une énorme bévue de Jorginho, qui a décidément le pied qui tremble un peu en ce moment. On se souvient de son pénalty manqué face à la Suisse, qui avait coûté cher à l'Italie lors des qualifications pour le Mondial 2022. Jadon Sancho en a profité pour s'emparer du ballon et aller battre Edouard Mendy, qui n'a pas pu faire de miracle cette fois. Heureusement pour Chelsea, Jorginho a pu se rattraper de son erreur en transformant le pénalty obtenu par Thiago Silva 19 minutes plus tard. Résultat final, un but partout. Chelsea a pris 30 points sur 39 possibles cette saison. 7 des 9 points perdus l'ont été à domicile. Défaite contre Manchester City, match nul contre Burnley et donc ce nul face à United. Mais surtout, Chelsea n'a pris que 2 points sur 9 face aux autres candidats déclarés au titre en début de saison, à savoir Liverpool, Manchester City et Manchester United. Ce qui a permis à Liverpool et City de se rapprocher des Blues en tête du classement et à United de retrouver des couleurs avant la réception d'Arsenal jeudi.
Alors, conséquence de ce nul, donc Chelsea qui laisse revenir Manchester City, qui s'est imposé de justesse sur West Ham 2-1 dans des conditions et un stade qu'on aurait pu comparer à un stade russe ou ukrainien à cette époque de l'année. Conditions hivernales dantesques, surtout en première période.
Oui, des conditions dantesques qui d'ailleurs avaient eu raison de la rencontre opposant Burnley à Tottenham, à quelques kilomètres de là. À City, il a fallu l'intervention des jardiniers pendant 25 minutes à la pause pour déblayer le terrain de l'Etihad Stadium, les vrais hommes du match selon Pep Guardiola. City a repoussé la neige autant que la menace West Ham, qui est décidément le poil à gratter du top 4 cette saison en Angleterre. Malgré une neige abondante en première période et l'ouverture du score de Gundogan sur un centre de Mahrez, City a souffert en seconde période et n'a fait le break qu'à la 90e minute grâce au vétéran Fernandinho, 36 ans, et dont c'était le premier but en Première Ligue depuis plus de 3 ans. Lanzini, côté West Ham, a réduit le score dans le temps additionnel, mais ça arrivait un peu trop tard. 5e victoire consécutive toute compétition pour les hommes de Guardiola, qui avaient battu le PSG un peu plus tôt dans la semaine, et surtout qui permettent aux Citizens de revenir à une longueur seulement de Chelsea en tête du championnat.
Voilà, Bruno, un petit retour maintenant sur le carton hier de Liverpool face à Southampton, 4-0. Franchement, le niveau d'efficacité des Reds devant les buts adverses sur ces derniers matchs reste particulièrement impressionnant.
Oui, hier à Anfield, c'était pas une averse de flocons, mais c'était une tornade rouge qui a balayé la formation de Southampton. Liverpool a clairement retrouvé l'intensité qui faisait sa force ces dernières saisons. Un Van Dijk impérial en défense, Thiago Alcantara qui est en train de monter en puissance dans l'entrejeu et un nouveau buteur, des latéraux qui montent toujours autant et puis ce trio offensif magique, Mané, Salah et surtout Diogo Jota, l'attaquant portugais, auteur d'un doublé et qui profite des pépins physiques de Firmino pour s'imposer à la pointe de l'attaque des Reds. Victoire 4-0, c'est le tarif maison à Anfield comme face à Arsenal. Une attaque de feu qui totalise 39 buts en 13 journées. Faites le calcul, il est facile, ça fait une moyenne de 3 buts par match. Cette saison en Première Ligue pour les Reds, absolument exceptionnelle. Et la confirmation que le titre se jouera bien entre Chelsea, City et Liverpool cette saison.
Merci beaucoup Bruno Constant, ça nous a fait plaisir de vous retrouver dans Mondial Sport. Et on vous retrouvera bien entendu régulièrement dans Radio Foot International toute la semaine avec Annie Gasnier. Un petit détour par la Serie A à l'approche de la clôture de la 14e journée. Le leader Naples cartonne lui également face à la Lazio à 2 minutes de la fin. Il mène 4-0. Grosse contre-performance en revanche du dauphin des Napolitains, le Milan AC, qui chute à domicile 3-1 devant le modeste Sassuolo. De son côté, l'AS Rome a battu 1-0 tout à l'heure le Torino, l'Est-Rome qui était 5e du classement au coup d'envoi. Et puis la 15e journée de Ligue 1, le leader, le Paris Saint-Germain, d'abord en difficulté, a fini par s'imposer à Saint-Etienne 3-1 grâce à un doublé de Marquinhos, un but d'Angel Di Maria. Le Gabonais Denis Bouanga a marqué pour les Verts, un match marqué par la première de Sergio Ramos en défense sous les couleurs parisiennes. Mais le bilan de la journée n'est quand même pas totalement positif puisque Neymar s'est encore blessé. Le Brésilien s'est tordu la cheville gauche après un tacle adverse. Il est sorti sur une civière. Derrière le PSG, c'est Rennes qui s'installe après sa victoire à Rennes 2-0. Bonne affaire également pour Lyon, vainqueur 1-0 à Montpellier et qui remonte à la 7e place. Et puis, il y a quelques instants, c'est Marseille qui s'imposait 1-0 dans son match de clôture de la journée. Match face à 3, donc victoire 1-0 de Marseille au Vélodrome. On enchaîne avec l'Afrique, toujours en football, avec un week-end consacré au tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération. Dernière étape avant la phase de poule. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Christophe.
16 duels étaient au programme aujourd'hui. Le tout-puissant Mazembe a pris une option sur la qualification.
Oui, le TP qui fait partie des 16 équipes éliminées lors du tour précédent en Ligue des Champions. C'était face aux Zambiens d'Amasoulou. Le club a donc été reversé dans cette Coupe de la Confédération. Il doit remporter ce barrage, ce tour de cadrage pour disputer la phase de poule. Alors cette fois, les Congolais se sont imposés 1-0 face aux Sud-Africains de Marumo Gallants. Service minimum pour les Corbeaux qui jouaient pour la première fois depuis un an devant leurs supporters. 9000 personnes étaient présentes. Satisfaction pour le gardien Ibrahim Mounkoro.
Tout le monde a fait de son mieux. C'est le plus important, c'était de gagner d'abord et le reste va suivre. Il y avait beaucoup mieux à faire. Aujourd'hui, on a raté des occasions qu'on pouvait marquer. On voulait aussi prendre beaucoup d'avantages par rapport au match retour. On sait que ça ne sera pas facile vu qu'on va se déplacer pour aller jouer chez l'adversaire. 1-0, c'est un score piège. C'est à notre avantage, mais c'est à nous maintenant d'être concentrés pour pouvoir bien négocier le match retour et se qualifier.
Ibrahim Mounkoro au micro de Pascal Mangala, le gardien qui a donc une nouvelle fois préservé sa cage inviolée, lui qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du championnat congolais. Match retour dimanche prochain en Afrique du Sud.
Un succès pour le TP Mazembe. En revanche, ça s'est mal passé pour les deux autres clubs de RDC engagés.
Oui, une défaite pour le Daring Club Motema Pembe face à l'US Gendarmerie Nationale 2-0 au Niger. Ce sera dur au match retour. Même chose pour l'AS Maniema Union. Défait à domicile 1-0 par les Égyptiens de Pyramides. Et puis déception aussi pour la JS Kabylie, le finaliste de l'an passé. Le club algérien s'est incliné en Eswatini 1-0 face au Royal Leopards. Et puis dans une moindre mesure, la Renaissance de Berkane a fait match nul 0-0 au Rwanda contre APR.
De son côté, l'AS Sec Mimosa a passé une après-midi plutôt tranquille.
Les Ivoiriens se sont imposés 2-0 contre les Angolais d'Interclub. Un doublé signé de l'attaquant Mimo Karim Konaté. Les joueurs d'Abidjan auraient pu marquer davantage de buts tant ils ont dominé cette rencontre. Réaction évidemment positive de l'entraîneur de la SEC, Julien Chevalier.
On joue avec les joueurs qui ont cette expérience, qui ont aussi un petit peu de crainte par moment, qui ont un peu de pression. Et il faut petit à petit qu'ils arrivent à dominer ces situations-là. Donc on est bien sûr content de leur performance, on l'a emporté. C'est bien, on a fait de bonnes choses, on aurait dû être plus efficace. Et ça ne garantit rien, c'est dommage, on aurait pu se mettre à l'abri, mais il faut continuer à travailler.
On va rester très concentré et être efficace.
efficace dans les deux zones de vérité, défensive et offensive. Aujourd'hui, ça a été plutôt serein défensivement. Par contre, on a manqué d'adresse offensive pour faire un peu plus la différence. Il faudra garder les mêmes idées, être solide défensivement d'abord. Et puis après, c'est mettre les buts pour valider le travail.
L'entraîneur de la SEC, Julien Chevalier, au micro de Mohamed Lamine.
C'est bien parti aussi pour les Congolais d'Oto Doyo.
Oui, bien joué, une victoire 1-0 contre les Kenyans de Gormaya. Contrairement au match du TP Mazembe, le stade résonnait creux à cause du huis clos. Mais l'entraîneur Badra Diallo salue la performance de ses joueurs tout en regrettant un peu leur inefficacité.
J'aurais voulu marquer encore plus de buts. On a eu des occasions, on n'a pas pu les concrétiser. On s'est précipité, on a manqué de lucidité. Maintenant, il nous reste un jour à défendre. Il faut le défendre là-bas et chercher à marquer. Là-bas, en Guéry, pour quand même espérer, pour ramener la qualification. Parce que ce ne sera pas facile, mais c'est le terrain est rond pour tout le monde. On va quand même se battre là-bas.
Un propos recueilli par Jean Ruffin à l'Ouemba.
Et puis succès aussi du Stade malien.
1-0 également, c'est le score de la soirée contre les Libyens d'Al Ahly Tripoli. Tout n'a pas été parfait pour les Bamakois, mais l'entraîneur Jean-Christophe Gratcap est plutôt fier de la prestation de sa jeune équipe.
Une victoire très difficile, mais une victoire quand même. Donc 1-0, je pense que c'est un bon résultat. Maintenant, je vous dirai si c'est un résultat suffisant dans une semaine. Nous, on a 21 ans et 6 mois de moyenne d'âge. Eux, ils ont 27 ans. C'est une équipe très expérimentée. Donc, ils vont être vexés. Donc, ils vont nous attendre de pied ferme. Mais bon, c'est très formateur et je pense que mes joueurs vont répondre présent.
Jean-Christophe Gratcap au micro de Mahamadou Kalogue.
En revanche, l'autre club malien, le Binga Football Club, a sombré.
Oui, 3-0 sur la pelouse du Zanaco en Zambie. Et puis à noter le match nul 0-0 entre les Mauritaniens de Ouadibou et le Coton Sport de Garoua. Victoire des Orlando Pirates, les Sud-Africains 2-0 au Liberia face aux LRPC Oilers. Et puis le match entre les Libyens d'Al Ittihad et les Nigérians d'Enimba n'a pas eu lieu. Celui-ci devait se dérouler en Tunisie, mais les autorités locales ont refusé de laisser entrer la délégation nigériane sur leur territoire pour cause de Covid-19. La CAF a proposé que la qualification se déroule en une seule manche au Maroc, mais les Libyens réclament une victoire sur tapis vert. Il va falloir résoudre cet imbroglio assez rapidement puisque, Christophe, les matchs retour se tiendront dimanche prochain.
Merci beaucoup Cédric. On rappelle que tous les résultats seront à retrouver sur Afrique Foot sur RFI.fr. On évoquait tout à l'heure le résultat de l'ASEC Mimosa. L'autre club abidjanais, l'Africa Sport, est lui bien loin des compétitions continentale en ce moment puisqu'il est en deuxième division, situation qui témoigne des grosses difficultés internes et qui plombent le club depuis des années. Mais ce dimanche va peut-être marquer le début d'un renouveau avec le retour à sa tête d'un de ses anciens présidents, Narcisse Théakouyo, déjà en poste de 2006 à 2011 et par ailleurs oncle de l'international ivoirien Sébastien Allaire. Il a été très largement élu à la tête de la fédération avec la promesse de faire remonter l'Africa dans l'élite et de mettre fin aux querelles intestines. Reportage sur cette élection de Yuen Gourlet.
Après plus de 4 heures de discussion, le nom du vainqueur est enfin sorti.
Est déclaré vainqueur de l'élection du président de l'Africa Sport d'Abidjan, M. Kouyo
Narcisse Théakouyo, ancien joueur et président de l'Africa Sport, était le grand favori. Il l'a largement emporté dès le premier tour avec près de 83% des votes des grands électeurs du club. Dans son discours de victoire, il dit vouloir rassembler et reprendre l'Africa sur des bases solides.
Il faut se tendre la main. Ensemble, chacun apporte de ce qu'il peut à ce club. Dans l'intérêt de nos supporters, mais dans l'intérêt de la jeunesse ivoirienne. Je prends l'engagement également que nous ne resterons pas plus d'un championnat en deuxième division. Nous avons assez pleuré.
Ce dimanche, les échanges étaient vifs au Palm Club Hotel d'Abidjan. L'un des trois candidats, Cheikh Oumar Kone, ancien président du club lui aussi, a même quitté la salle avant l'élection, estimant le scrutin illégal.
10 ans après, on est dans les mêmes travers. J'ai toujours dit qu'il faut construire sur la légalité. On ne peut pas, c'est tellement ridicule. Comment on peut faire des élections sans adopter les textes? Alors, vous faites les élections sous quelle base?
Le club est en crise depuis plusieurs années avec de multiples problèmes. Mauvais résultats, guerre intestine avec deux présidents à la tête du club, salaires impayés, grève des joueurs avec comme conséquence, la saison dernière, la relégation en Ligue 2 pour la première fois après 74 ans dans l'élite. Proche de Laurent Gbagbo, Narcisse Théakouyo a connu une décennie difficile, la prison et l'exil peu après sa présidence, avant de rentrer en juin dernier, en même temps que l'ancien président ivoirien. Son retour à la tête du club est un soulagement pour la grande électrice, Eulalie Assicho.
Et c'est la crise qui a fait fait qu'il n'a pas pu terminer. Déjà, il vient, il va remettre l'Africa sur les selles, réunir tous les enfants de la maison, parce que c'est quelqu'un qui est rassembleur. Il va terminer le siège, il va permettre dans son discours, vous l'avez entendu, il va mettre le terrain en chantier et permettre à l'Africa tout de suite de retourner à la Ligue 1.
Présent devant l'hôtel depuis l'aube, une trentaine de supporters des Aiglons scandent le nom du nouveau président.
Un jour historique. On espère que c'est la fin de toutes les palabres de tous ces désordres qu'on a connus pendant toute une décennie. Il a les idées très claires, il va nous conduire à bon port. Il a déjà géré l'Afrique, on sait où il peut nous envoyer.
Le premier match du renouveau aura lieu dès ce 6 décembre en Ligue 2 pour la toute première fois. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Les amateurs de la petite balle collante s'en réjouissent déjà. Le handball va revenir dans l'actualité sportive cette semaine avec la première grande compétition post-Jeux Olympiques, les championnats du monde féminins en Espagne. Quatre villes côtières de la Méditerranée vont accueillir les 32 équipes en lice. Les Françaises, forcément attendues après leur premier sacre aux Jeux cet été à Tokyo, joueront à Granollers près de Barcelone. Des Bleus qui entament un nouveau chapitre sans trois néo-retraités internationales. L'ex-capitaine Siraba Dembélé, la gardienne Amandine Leno et l'arrière Alexandra Lacrabert. Ce week-end a été l'occasion d'une bonne mise en jambe avec deux victoires sur la Hongrie en match de préparation. Elles attaqueront leur mondial vendredi face à l'Angola, éternel chef de file du hand féminin africain, qui sera également représenté par le Cameroun, le Congo et la Tunisie. Ces deux dernières sélections sont d'ailleurs dans le même groupe et joueront également à Granollers. Les Tunisiennes, troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en juin, vont affronter au tour préliminaire le Danemark et la Corée du Sud avant de retrouver les Congolaises pour un duel peut-être décisif en vue de la qualification pour le tour suivant. Ce mondial, la Tunisie l'aborde avec une équipe jeune, certes, mais séduisante, qui n'a pas été très loin de créer la surprise face aux Angolaises lors de la CAN. Et son sélectionneur, Moïse Benamor, estime qu'elle aurait même pu être un cran au-dessus si le Covid n'avait pas joué les troubles faits, comme il explique à notre correspondant Farouk Katou lors d'un entretien cette semaine à Nabeul, en pleine préparation du mondial.
À la CAN au mois de juin, on était privé de presque 6 joueuses qui ont attrapé le virus corona vu la situation sanitaire en Tunisie. On les a récupérées depuis la préparation. Déjà, on a fait un stage en France avec 3 matchs amicaux contre l'équipe de Sambre et contre l'équipe nationale de la Belgique. On a surtout récupéré de 3-4 joueuses qui sont importantes dans notre projet de jeu. Mais surtout, ce qui manque, il n'y a pas des matchs vraiment avant le championnat du monde.
Vous êtes sans match de préparation. Avec des joueuses qui n'ont jamais participé à cette compétition. Comment allez-vous, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mondial ?
Donc on est prêt. Déjà on avait quelques joueuses qui ont l'expérience du mondial, presque on a 3-4 joueuses, mais la plupart des joueuses ont participé au championnat du monde des jeunes, que ce soit en cadette ou en junior. On a un bon groupe de très bons jeunes, surtout lorsque j'étais avec le sélectionneur des cadettes, on a fait le championnat du monde en Pologne 2018, on a franchi le premier tour pour la première fois de l'histoire de la Tunisie, on a fait le championnat d'Afrique avec ces mêmes jeunes-là, et quand vous avez constaté l'exploit fait au CAN du Cameroun avec la troisième place obtenue. Donc voilà, on va intégrer ce jeune-là dans le championnat du monde. On est là pour apprendre et pourquoi pas faire la surprise et aller au deuxième tour.
Ce groupe a participé à la CAN durant laquelle vous avez bousculé sérieusement l'équipe d'Angola en demi-finale. Quel enseignement avez-vous tiré de cette dernière CAN?
On a appris beaucoup de leçons. L'équipe de l'Angola, comme vous le savez, sur les 10 dernières CAN, elle a obtenu presque 9. On les a fait presque bousculer pendant tout le match, mais la faute de la plus jeune joueuse qui était sur terrain, qui a le manque d'expérience à la fin, mais on a fait un grand match. L'Angola, pendant le championnat d'Afrique, elle a marqué tous les matchs plus que 30 buts. Contre nous, seulement elle a marqué 21 buts. On a très bien défendu avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage. On va continuer dans ce projet-là et entamer le championnat du monde avec le même esprit. On a commencé déjà à regarder le Danemark, ses derniers matchs pendant la qualification de le championnat d'Europe. On connaît bien aussi la Corée qui a remporté le championnat d'Asie en mois d'octobre, donc on les regarde, on a décortiqué les matchs. Surtout, on va aborder le match de Danemark qui est un match très difficile. Il faut savoir gérer bien le match et atteindre le deuxième match avec beaucoup de fraîcheur.
Le Danemark et la Corée du Sud, deux styles différents.
Oui, le Danemark, c'est une équipe typiquement européenne. Elle joue la défense 0-6. Ils sont costauds, ils sont plutôt gabarrés. Par contre, la Corée du Sud, ils sont plutôt rapides, explosifs. Ils jouent la défense avancée. Donc, on doit s'adapter face aux deux matchs-là. Surtout le match du Danemark, l'entame. On doit bien gérer le match. On ne doit pas être ridicule. On doit tenter nos chances et montrer le vrai visage du handball féminin tunisien.
Le dernier match du tour préliminaire sera face au Congo. Est-ce que vous considérez que c'est un match décisif pour la suite de la compétition ?
C'est le match clé. Après tout, on connaît bien le Congo. On l'a déjà battu en mois de juin pour la 3e-4e place. Mais sérieusement, moi, je compte aussi sur le match du Corée du Sud. Pourquoi pas faire la surprise contre le Corée du Sud pour atteindre le deuxième tour dès le match de la Corée du Sud. Parce que si tu gagnes le Corée du Sud, et si tu gagnes après le Congo, tu seras deuxième. Et après, tu joues dans le deuxième tour avec beaucoup de chance pour atteindre peut-être la 8e de finale ou plus.
Moez Benhamor, le sélectionneur des handballeuses tunisiennes. Premier match pour elle, jeudi 19h30, temps universel face au Danemark. RFI y sera et vous pourrez suivre quasiment tous les matchs des équipes africaines et de l'équipe de France en direct dans nos différents journaux. Le constat n'est pas nouveau et les JO de Tokyo n'ont fait que le confirmer. L'athlétisme français a bien du mal à retrouver un nouveau souffle. Depuis 2 ans, les résultats en compétition internationale sont très maigres. Les solutions et les hommes pour les appliquer peinent aussi à émerger. Et pourtant, Paris 2024, c'est presque demain. Il y a donc urgence à relancer le haut niveau avec une nouvelle génération entièrement tournée vers cet objectif. Voilà pourquoi la Fédération française lance un nouveau plan d'action avec un maître mot, professionnaliser la préparation des jeunes talents pour en finir avec cette crise de performance. Simon Bourtembourg.
Une seule médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'athlétisme français est en déroute. Crise de gouvernance et de résultats. À seulement 3 ans des Jeux de Paris, le mal semble profond. Et si l'on ne connaît toujours pas le nom du futur directeur technique national de la Fédération française d'athlétisme, des projets naissent pour favoriser l'éclosion d'une nouvelle génération d'athlètes. Le nouveau plan Ambition 2024 prévoit un accompagnement professionnel pour 56 jeunes sportifs à fort potentiel. Un impératif pour renouer avec le succès, assure André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme.
On l'a vu cet été à Tokyo, on a brillé dans les sports collectifs. Mais tous les athlètes sont des athlètes professionnels. Donc on ne peut pas aujourd'hui être performant au plus haut niveau si on ne se consacre pas à temps plein à sa préparation. Au niveau de l'athlétisme, on est un sport amateur, on n'a pas de ligue professionnelle. Et donc nous avons mis en place ce dispositif Ambition 2024 pour la nouvelle fédération, pour sécuriser les athlètes au moins dans leur carrière professionnelle.
Rose Loga est vice-championne du monde junior du marteau. La lanceuse de 19 ans incarne les difficultés qui peuvent se présenter aux jeunes athlètes.
J'ai eu mon bac et du coup, le passage aux études supérieures, il est assez difficile à faire quand on est sportif. Ça implique énormément de choses par rapport aux études qui doivent correspondre aux attentes du sport. Et trouver ce juste milieu-là, à notre âge en tout cas, c'est quelque chose d'assez compliqué.
Le programme Ambition 2024 s'attache donc à accompagner les difficultés extrasportives que peuvent rencontrer les athlètes. Une aide financière, mais aussi un suivi personnalisé assuré par une marraine expérimentée. Marie-Josée Perec, triple championne olympique avec qui Rose Loga a déjà eu l'occasion d'échanger.
C'est une figure emblématique de l'athlétisme et du sport français. Et le fait de pouvoir l'avoir en quelque sorte comme marraine, qu'elle soit là, qu'elle nous aiguille, c'est très important qu'elle partage aussi son expérience avec nous. On a eu cette chance-là. Ça nous a permis aussi de pouvoir en quelque sorte voir tous les revers du sport. Et ça nous aidera, je pense, pour notre avenir.
Un avenir qui devrait être radieux pour Rose Loga, déjà détentrice du record de France junior du marteau, avec un lancer à 71 mètres et 9 cm. Et les talents ne manquent pas en France, assure André Giraud, heureux que le plan Ambition 2024 draine un grand nombre de jeunes athlètes.
Le fait d'avoir déjà 56 athlètes qui couvrent toutes les disciplines, ça nous permet d'augmenter cette densité. Si au départ d'une course, au lieu d'avoir un athlète, on en a 3, on a plus de chances d'être brillant que si on en a qu'un.
Pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, l'athlétisme français compte sur une nouvelle génération pour couvrir de médailles une fédération en crise.
Avant de se séparer, sachez que le Real Madrid a battu finalement le FC Séville 2-1 ce soir à Santiago Bernabéu grâce à Benzema et Vinicius, dont on a parlé hier dans l'émission Mondial Sport. Le Real compte aux 4 points d'avance en tête au classement devant l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est terminé pour l'émission. Merci à Hélène Avril pour la réalisation. Dans un instant, à 4 ans en France. Littérature.